France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après avoir survécu de justesse hier à une motion de défiance de l'opposition travailliste, la première ministre britannique Theresa May poursuit aujourd'hui ses discussions tant avec les eurosceptiques que les europhiles dans l'espoir d'aboutir enfin à un consensus pour sortir de l'impasse sur le Brexit.
Pendant ce temps, la France se prépare, elle, à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.
Oui, jugeant cette éventualité de moins en moins improbable, le Premier ministre Édouard Philippe a déclenché en effet ce matin un plan d'urgence comportant des mesures à la fois législative et juridique.
Le phénomène est récurrent, massif et toucherait plus particulièrement ceux atteints de maladies chroniques.
Selon un sondage rendu public aujourd'hui, un Français sur quatre a déjà été confronté à une pénurie de médicaments ou de vaccins.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, la chute irrésistible de Carlos Ghosn se poursuit.
Oui, l'État français a demandé officiellement la convocation d'un conseil d'administration de Renault pour désigner un successeur à son PDG incarcéré depuis 2 mois au Japon. L'ONG Human Rights Watch publie aujourd'hui son rapport annuel sur les droits humains, l'organisation qui a pris le parti cette année de mettre en avant les mouvements qui s'élèvent contre les dirigeants autoritaires. Et puis, dans une vingtaine de minutes, invité du journal Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime et président délégué de l'Association des Petites Villes de France. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Médicaments, vaccins, attentats, réchauffement climatique, sur tous ces sujets, des théories du complot à la désinformation, les mauvaises informations qui circulent. Comment faire face, comment former notre esprit critique. On va en parler avec notre invité. Il est justement psychologue et mathématicien, spécialiste des questions de cognition. Il s'appelle Nicolas Gauvry, il sera avec nous à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Depuis David Cameron, lequel avait lancé le référendum sur le Brexit, bien que favorable au maintien dans l'Union européenne, jusqu'à Theresa May, laquelle avait fait campagne pour le Remain et se trouve aujourd'hui à défendre le Brexit. Chaque jour qui passe semble révéler combien le scénario de ce psychodrame repose au fond tant sur des acteurs contraints de jouer à contre-emploi que sur des ressorts narratifs aussi incohérents que nécessaires. Hier encore, sans craindre la contradiction, la centaine de députés du camp conservateur de Theresa May qui, 24 heures plus tôt, avait voté contre son accord négocié avec Bruxelles, contribuant à son humiliante défaite, ont cette fois-ci serré les rangs derrière leur chef. Seulement voilà, pas plus que le fiasco de la veille, la victoire d'hier ne change quoi que ce soit à la crise, puisque ni le gouvernement ni le Parlement n'ont véritablement aujourd'hui de solution à proposer. Isabelle Labéry, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre envoyé spécial à Londres. Alors aujourd'hui, l'alternative qui se dégage pourrait se résumer ainsi, soit une sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord, soit un retour en quelque sorte à la case départ, c'est-à-dire une nouvelle consultation des électeurs. S'agissant de cette hypothèse en particulier, celle d'organiser donc un second référendum, quel est aujourd'hui, Isabelle, l'état du rapport des forces politiques ?
Eh bien, vous avez de plus en plus de parlementaires, toutes tendances confondues, qui poussent cette option, mais sur leur route, il y a un obstacle de taille, c'est Theresa May elle-même. Pour l'instant, c'est très clair, elle ne veut pas de nouveaux scrutins. Position partagée, quoique de manière un peu moins catégorique, par le chef de file de l'opposition, Jeremy Corbyn. Depuis mardi, ces deux dirigeants sont soumis à une pression grandissante au sein de leur propre parti, mais aussi de la part des indépendantistes écossais, des Verts et des libéraux, qui voient dans un nouveau vote la seule façon de sortir de l'impasse. En dehors de la sphère politique, dans le camp du Remain, 170 chefs d'entreprise, parmi lesquels le designer Terence Conran, publie une lettre aujourd'hui dans le Times. Un mauvais accord ou pas d'accord du tout aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie, disent-ils, et l'horloge tourne, il faut impérativement revoter. Les pro-européens qui espèrent ainsi renverser la tendance se sentent portés par les sondages. Selon la dernière étude YouGov publiée hier, les Britanniques voteraient à 56% pour le maintien de leur pays dans l'Union. Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé.
Alors dans l'hypothèse, Isabelle, où un second référendum serait effectivement proposé, comment dès lors éviter que cette option ne soit interprétée comme une grande trahison du vote populaire ?
Effectivement, il ne s'agirait pas de faire un copier-coller de la question de 2016, Leave or Remain, et pour donner à ce nouveau vote une légitimité politique, eh bien les chercheurs imaginent mille et une formulations. Je vais vous donner deux exemples seulement. Option 1, 3 questions. Souhaitez-vous quitter l'Union européenne sans accord ? Quitter l'Union européenne en suivant l'accord de la Première ministre ? Ou rester dans l'Union sans changement. Cette possibilité a été récemment validée par la Cour de justice de l'Union européenne. Option 2, un vote en deux temps. Il s'agirait de demander d'abord aux électeurs quel serait leur choix en cas de Brexit, avec ou sans accord. Un mois plus tard, nouvelle question. Maintenant que vous savez comment nous partirions, préférez-vous partir ou rester? Vous voyez un petit peu le casse-tête, il y a encore plein d'autres possibilités. Un député conservateur, partisan lui aussi du Remain, a déposé un projet de loi censé permettre l'organisation de ce nouveau référendum. Et si le Parlement donne son feu vert, il faudra de toute façon un aménagement du calendrier parce qu'il sera impossible, évidemment, de tenir la date du 29 mars prochain.
Merci Isabelle Labéry en direct de Londres. Alors pour l'heure et après le vote donc du Parlement britannique, eh bien l'éventualité d'un Brexit sans accord semble de moins en moins improbable. C'est du moins ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre Édouard Philippe, lequel a déclenché un plan d'urgence. Il comporte des mesures à la fois législatives et juridiques. Au total, 5 ordonnances seront adoptées dans les 3 semaines qui viennent. Les précisions d'Éric Bigala.
C'est clairement, a dit Édouard Philippe, le rejet massif ce mardi par le Parlement britannique du plan de sortie de l'UE qui a rendu aujourd'hui l'hypothèse d'un Brexit dur, d'une sortie du Royaume-Uni sans accord, beaucoup plus probable. Le gouvernement français déclenche donc son plan pour faire face à cette éventualité-là. Premier volet du dit plan, une loi d'habilitation présentée aujourd'hui et qui permettra de faire passer 5 ordonnances dans les 3 prochaines semaines. Ceci pour garantir une certaine continuité de droit. Second volet, des investissements. Édouard Philippe.
Pour faire face au Brexit sans accord, nous avons pris la décision de lancer un plan d'environ 50 millions d'euros d'investissement dans les ports et les aéroports français qui sont évidemment les lieux les plus concernés. Dans quelques ports, ce sera la construction de parkings, dans d'autres, ce sera la mise en place d'installations de contrôle. 600 recrutements seront réalisés dans les semaines qui viennent. Ils avaient été inscrits dans la loi de finances qui a été débattue à la fin de l'année dernière, mais nous les déclenchons. Il s'agit d'emplois de douaniers, de contrôleurs vétérinaires, de toute une série d'agents de l'État qui vont permettre d'être à la hauteur des enjeux, d'être à la hauteur des contrôles nécessaires.
Enfin, le Premier ministre a également annoncé un futur dispositif spécifique qui sera détaillé en février pour soutenir le secteur de la pêche. En cas de Brexit dur, en effet, le secteur industriel qui risque d'être le plus impacté en France sera sans doute la pêche. Les pêcheurs français risquant de se voir désormais interdits d'activité dans les eaux britanniques, considérées comme les plus poissonneuses d'Europe.
Un Français sur 4 a déjà été confronté à une pénurie de médicaments. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par plusieurs associations d'usagers du système de santé rendu public ce matin. Ces ruptures d'approvisionnement concernent notamment des traitements d'affections de longue durée tels que le cancer ou la maladie de Parkinson, mais aussi des vaccins. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour.
Alors tous les types de médicaments en réalité sont concernés et plus de la moitié des sondés semblent attribuer la raison de cette pénurie donc aux industriels. Industriel du médicament, qu'en est-il exactement?
C'est aussi ce que pense France Asso Santé à l'origine de ce sondage pour qui les industriels du médicament privilégient leurs intérêts commerciaux au détriment de la santé publique. Ça a notamment été le cas pour certains vaccins, selon Yann Mazins, chargé de mission santé à France Asso Santé.
On a des laboratoires qui ont changé de modèle de produits vaccinaux, se sont engagés à ce qu'il n'y ait pas de pénurie. Malheureusement, ça a été le cas. Le médicament n'est pas une marchandise comme les autres. Les industriels profitent d'un marché qui est solvabilisé par la solidarité nationale, mais malheureusement, ils ne remplissent pas leurs obligations.
Au-delà des industriels, c'est le système dans sa globalité qui doit être revu, estime Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine et invité chez nos confrères de France Info ce matin. Il y a trop de matières premières fabriquées à l'étranger.
On fabrique beaucoup en Inde, beaucoup en Chine, tous les médicaments. C'est pas normal. On devient dépendant de 2 pays. Il faut réindustrialiser l'Europe pour avoir un petit peu plus d'indépendance.
Il déplore également les quotas fixés par les laboratoires aux grossistes qui peuvent vendre leurs médicaments en dehors de France. Alors aujourd'hui, un appel est lancé aux autorités sanitaires qui doivent agir, car ces ruptures de stock ont des conséquences importantes pour les malades. 45% des personnes qui y sont confrontées ont dû modifier ou arrêter leur traitement. 4% ont dû être hospitalisés. Selon l'étude de France Asso Santé.
Merci Fiona Mogadam. Le géant pharmaceutique français Sanofi a refusé hier de donner suite aux premières demandes d'indemnisation de victimes de son médicament antiépileptique Dépakine via le dispositif national prévu à cet effet, rejetant ainsi la responsabilité du scandale sanitaire sur les autorités. Réveil à l'aube, salut aux drapeaux et uniformes pour tous. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et hier, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a esquissé les grandes lignes du service national universel, le NU, censé favoriser, selon le ministère, un sentiment d'unité nationale de la jeunesse autour de valeurs communes. Guillemette Franquet, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour
à tous. Une première phase sera expérimentée dès le mois de juin auprès de 3000 jeunes volontaires âgés de 16 ans. Les jeunes retenus après un appel à candidature au mois de mars seront envoyés dans un des 13 départements pilotes. Concrètement, Guillemette, à quoi seront-ils formés et dans quelles conditions?
Eh bien concrètement, les jeunes volontaires vont d'abord passer 2 semaines loin de chez eux dans un centre SNU, un internat, un bâtiment de l'armée reconverti pour l'occasion. Par exemple, dans le Puy-de-Dôme, un des 13 départements test, les 200 jeunes seront hébergés dans un ancien camp militaire. Chaque centre SNU se divise en maisonnées de 10 jeunes, des maisonnées mixtes mais avec des dortoirs séparés et un éducateur référent, titulaire au moins du BAFA, ce diplôme qui permet par exemple d'animer des colonies de vacances. Chaque jour, levé à 6h, les adolescents suivent 2 modules de 4 heures sur des thèmes divers. Premier secours, autodéfense, parcours du combattant, écologie, des activités citoyennes dispensées par des éducateurs et des militaires. De retour dans les maisonnées, les 10 jeunes se réunissent en conseil afin de revenir sur les expériences du jour, mais aussi pour organiser la vie en collectivité, les tâches comme le ménage ou la cuisine, qu'ils assureront eux-mêmes. Pas de téléphone portable en journée, mais le soir, les jeunes pourront le rallumer pour garder le contact avec l'extérieur. Dans un second temps, les jeunes rempliront une mission d'intérêt général près de chez eux, cette fois-ci, pour favoriser l'engagement individuel pendant 15 jours d'affilée ou pendant 100 heures réparties sur l'année au sein d'une collectivité locale, d'un corps en uniforme ou d'une association comme Léo Lagrange ou Unicité.
Merci Guillemette Franquet. Siemens n'entend pas faire de concessions supplémentaires à la Commission européenne pour obtenir son feu vert à la fusion de ses activités ferroviaires avec le constructeur français Alstom, ou dit autrement, le groupe allemand se dit prêt à renoncer à cette opération si l'exécutif européen continue de la bloquer. Siemens qui précise par ailleurs disposer d'ores et déjà de pistes alternatives pour développer cette division. La Commission doit rendre son avis au plus tard le 18 février. Cette fois-ci, c'est officiel, l'État français, premier actionnaire de Renault, a lâché le PDG du constructeur automobile en demandant la nomination d'un successeur dans les prochains jours à Carlos Ghosn, 2 mois après son arrestation au Japon. Carlos Ghosn va donc perdre son dernier titre et pour lui succéder, un nom notamment revient avec insistance, celui de Jean-Dominique Senard, le président sortant de Michelin et dont le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire ne cesse de louer les qualités. Son portrait est signé Isabelle Raymond.
C'est l'actuel patron de Michelin, il a 65 ans, son mandat à la tête du géant du pneumatique se termine au printemps et il a plusieurs qualités à faire valoir. D'abord, l'État le connaît bien et l'apprécie. Jean-Dominique Senard avait l'an dernier la préférence du gouvernement pour prendre la tête du MEDEF, mais il n'a finalement pas pu concourir pour cause de limite d'âge. C'est un grand industriel, selon les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire, et un spécialiste du secteur automobile. D'ailleurs, Michelin est un vivier traditionnel de recrutement pour Renault. Carlos Ghosn lui-même est issu du groupe Clermontois, tout comme l'actuel numéro 2 de la marque Losange, Thierry Bolloré, aux commandes du constructeur français depuis que le futur ex-patron est emprisonné au Japon. D'ailleurs, l'idée du gouvernement, c'est celle d'une gouvernance bicéphale, avec d'un côté pour l'opérationnel Thierry Bolloré et de l'autre un président non exécutif, Jean-Dominique Senard, donc tient la corde. Reste à entériner ce nouvel organigramme, c'est le conseil d'administration de Renault qui aura le dernier mot, il devrait se prononcer dès dimanche.
Aux États-Unis, après 4 semaines bientôt de fermeture partielle des administrations fédérales, l'impasse politique semble loin de se résoudre. Hier, le président et ses opposants démocrates ont continué à s'accuser mutuellement d'être responsables du blocage. Quand le premier réclame que soit inscrit dans le budget fédéral le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique, les seconds s'y refusent catégoriquement. Moins d'un mois après que Donald Trump a déclaré la défaite du groupe État islamique en Syrie, voilà qu'un attentat suicide revendiqué par ces mêmes djihadistes vient mettre en lumière une réalité bien différente. Hier, 16 personnes, dont 4 Américains, ont été tuées dans une attaque revendiquée par Daesh, soit l'attaque la plus meurtrière pour les forces américaines engagées en Syrie depuis 2014. De quoi fournir, a priori, des arguments à tous ceux qui critiquent la stratégie militaire du chef de la Maison-Blanche. Deuxième pourvoyeur d'armes à l'Arabie Saoudite après les États-Unis, la France est aujourd'hui pointée du doigt par l'ONG Human Rights Watch. Son directeur se dit déçu par le président Emmanuel Macron, lui reprochant notamment de faire passer les intérêts de son pays avant ceux des droits de l'homme. Alors cette déclaration est à rapprocher de la publication ce matin du rapport annuel de l'ONG sur le respect des droits humains à travers le monde. Dans sa 29e édition, Human Rights Watch s'inquiète plus particulièrement de la montée en puissance des populismes, tout en se félicitant par ailleurs de ce que la résistance des sociétés civiles dans de nombreux pays s'est mise en marche pour contrer la menace des régimes autoritaires. Les précisions d'Omar Waman.
C'est un monde malmené par les populismes que décrit le 29e rapport de Human Rights Watch. Par tous les mouvements racistes, autoritaires et anti-migrants, on le vend en poupe. Comme au Brésil, où son président Jair Bolsonaro, récemment élu, a commencé à appliquer son programme d'extrême droite. Des pratiques bien ancrées ailleurs, comme en Égypte ou en Turquie. Des pays dirigés selon l'ONG par des autocrates qui démontrent chaque jour leur mépris pour les droits fondamentaux. L'Arabie Saoudite est également épinglée. La dictature de Riyad a défrayé la chronique l'automne dernier suite à l'assassinat dans des conditions atroce du journaliste Jamal Khashoggi. La Chine et la Russie sont aussi pointés du doigt, Moscou et Pékin étouffant régulièrement toute contestation populaire. Mais l'Europe n'est pas en reste. Human Rights Watch s'inquiète notamment pour la situation en Pologne et en Hongrie, où le terreau est fertile pour les populistes. La peur de l'immigration y est exploitée à outrance afin de fragiliser l'équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir. Mais la riposte face à ce péril s'organise. L'exemple le plus frappant que relève le rapport concerne les États-Unis de Donald Trump, où les mouvements des droits de l'homme sont entrés en résistance afin de limiter l'action du président américain et de son gouvernement.
Les ennuis judiciaires ne semblent pas encore tout à fait terminés pour Laurent Gbagbo. Hier soir, la Cour pénale internationale a suspendu la remise en liberté de l'ancien président ivoirien après un nouvel appel déposé par le procureur au lendemain de son acquittement retentissant. Plusieurs dirigeants du continent africain doivent se réunir aujourd'hui à Addis Abeba pour discuter des élections contestées en République démocratique du Congo après que Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur du scrutin présidentiel. Son principal rival, l'opposant Martin Fayulu, a lui fait appel du résultat, un contentieux qui fait craindre une aggravation donc de la crise politique. Et puis c'est dans ce contexte que les Nations Unies ont, elles, avancé hier que près de 900 personnes avaient péri dans les violences communautaires qui avaient embrasé le mois dernier plusieurs villages de l'ouest de la RDC. Des violences liées à une vieille rivalité entre deux ethnies et donc pas directement liées au scrutin présidentiel, même si en l'occurrence elles avaient conduit l'exécutif à demander le report des élections dans cette région. 12h47 sur France Culture, l'heure d'accueillir l'invité politique du jeudi, Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime et président délégué de l'Association des Petites Villes de France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question monsieur Bouillon, j'évoquais en début de ce journal les affres du Brexit. Au-delà de la question de savoir si cela fait ou non de la publicité bonne ou mauvaise pour l'usage du référendum, à l'heure où de plus en plus de Français revendiquent ce pouvoir de devenir des acteurs de leur démocratie. Ce Brexit a-t-il, selon vous, quelque chose à voir avec les gilets jaunes, s'agissant notamment de la coupure souvent dénoncée avec les élites ?
En France aussi, on a nos insiders ou outsiders. Ou pour le dire autrement, il y a un sentiment fort qui existe de déclassement ou de territoire abandonné. Il y a beaucoup de communes, de collectivités. On a le sentiment d'être un peu au bout de la table, si vous me permettez l'expression. C'est ce que révèle sans doute le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas un hasard s'il s'est exprimé plus tôt dans les territoires dits périphériques, en lisière de grandes agglomérations, dans ce qu'on appelle plus simplement l'arrière-pays.
Et donc notamment en Grande-Bretagne.
Exactement.
Question de Stéphane Robert.
Vous n'étiez pas au lancement du grand débat qui s'est déroulé à Bourtroude dans l'Eure. C'est juste à côté de chez vous puisque vous êtes en Seine-Maritime. Mais vous avez suivi, j'imagine, ce qui s'y est passé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un véritable changement de pied de la part du président de la République?
Je suis pas surpris par la performance, comme on l'a appelé, parce que le président de la République affectionne ce qu'on pourrait appeler finalement un grand oral. Je suis pas surpris non plus par le public. Vous savez, les maires, c'est plutôt un public policé, très respectueux des institutions. Ce sont des républicains. Je ne suis pas non plus surpris par les questions qui ont été posées. Elles sont connues de tous. Les fractures territoriales, le sentiment parfois que l'État a la main lourde, l'envie d'être entendu par les maires, tout ça. cela ne me surprend pas. Mais simplement, c'est vrai qu'on a beaucoup commenté la durée impressionnante de ces échanges. C'est vrai que 7 heures, il y a de quoi être impressionné. Pour autant, ce n'est pas parce que, par exemple, un président de la République va visiter pendant 10 heures le salon de l'agriculture qui résout derrière la crise agricole. De la même façon, ce n'est pas parce qu'on a eu 7 heures de débat que derrière, on peut résoudre la crise que révèle bien évidemment le mouvement Gilets jaunes et que porte aussi l'ensemble des maires des territoires les plus concernés, c'est-à-dire les territoires périurbains et ruraux.
Vous avez un peu le sentiment que les élus locaux ont été écartés pendant un an et demi, 20 mois d'exercice du pouvoir de la part d'Emmanuel Macron, et puis qu'on fait appel à nouveau à eux quand la tempête se lève. C'est un peu ce sentiment-là que vous avez ?
Oui, on peut pas dire que pendant 18 mois, la relation ait été au beau fixe. Hein. Vous savez, il y a eu un peu de vaisselle cassée. Des élus ont refusé d'assister, par exemple, à la conférence nationale des territoires. Je pense que, en effet, le président de la République et le gouvernement redécouvrent les vertus de s'appuyer sur les corps intermédiaires, dont fait partie les maires. Je n'ignore pas aussi la cote de confiance importante exprimé par les citoyens quand on évoque les élus, c'est le maire qui est largement en tête. Mais il ne faut pas qu'on soit dupes. On n'est pas là non plus pour passer les plats, ni pour servir la soupe à qui que ce soit. On est là à la fois pour pas priver, bien évidemment, les habitants de ce débat, pour pas se priver soi-même de ce débat, mais on ne doit pas y aller les mains vides. Il faut qu'on puisse y aller avec des propositions. Et il y a quand même une méfiance qui persiste hein, chez les élus, c'est de se dire qu'est-ce que ça va donner derrière ? Est-ce qu'il va y avoir un suivi ?
Et du coup, alors concrètement, que vous n'allez pas être initiateur de débats dans les communes, notamment dans les petites villes dont vous présidez l'association, vous allez attendre qu'on vienne vous trouver, c'est ça ?
On ne peut pas être organisateur ou co-organisateur parce qu'on n'a pas à réparer les pots cassés par le gouvernement. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les cahiers de doléances, on a pour la plupart de nos mairies ouvert les mairies et mis à disposition des habitants des cahiers de doléances. On observe que la plupart des doléances, des interpellations concernent d'abord le pouvoir central, que ça soit sur la question du pouvoir d'achat, que ça soit sur la question de la fiscalité, que ça soit sur la question de la crise démocratique avec des propositions de référendum par exemple. Tout ça, c'est quand même une interpellation qui se dirige essentiellement vers le gouvernement, vers l'État. Ce n'est pas de la compétence des communes. Pour autant, on ne peut pas se désintéresser, bien évidemment, de ce qui va se dire. Ça nous concerne aussi. Donc, être facilitateur, oui. Être empêcheur, non. Être co-organisateur, pas du tout.
Il y a une crainte d'organiser ce débat ?
Oui, parce que beaucoup de maires expriment la crainte assez simple de se dire il faudrait pas qu'on nous mette en première ligne, qu'on gonfle un exploit, et puis derrière, si ça se passe mal, s'il n'y a pas de suite donnée, si finalement le gouvernement ne prend pas de bonnes décisions derrière, eh bien on s'en prendra aux maires. On dira, bah, puisque vous étiez présent, puisque c'est vous qu'on a beaucoup entendu, puisque vous étiez devant nous, eh bien on vient vous voir pour vous demander des comptes, et ça les maires s'y refusent.
Est-ce que vous avez le sentiment que ce débat peut apporter quelque chose de positif et de nature à régénérer partiellement peut-être la démocratie en France ?
Mais c'est pas la première fois que dans des communes, on a une forme de démocratie représentative, participative. Ça fait longtemps déjà que les communes ont mis en œuvre, pour la plupart d'entre elles, quelle que soit la taille d'ailleurs, des conseils citoyens, des rendez-vous réguliers pour présenter des projets, pour les corriger, pour les améliorer sans doute. Donc on découvre pas la démocratie participative dans les communes. Par contre, on sait que l'État est habitué à faire des grandes réunions. On a eu les assises sur la mobilité, les états généraux de l'alimentation, les assises sur le transport aérien, maritime, j'en passe. Mais derrière, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'il y a un suivi. Et là, il y a beaucoup d'incertitudes encore ou de flou pour savoir sur quoi ça va déboucher.
Vous avez été au cœur de la contestation, puisque les petites villes, vous êtes souvent en périphérie des grandes agglomérations. Vous avez le sentiment que les petites villes ont vécu ça en direct, la colère des Gilets jaunes là, depuis le 17 novembre ?
Oui, parce que ce sont dans ces petites villes, finalement, que se vérifie depuis plusieurs mois et même plusieurs années maintenant ce qu'on peut appeler une forme de métropolisation mal maîtrisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit bien que dans les grandes agglomérations, dans le cœur des métropoles, se concentrent les meilleurs emplois, les meilleures formations, les meilleurs services publics. Et puis autour, c'est plutôt l'absence justement de services publics, le sentiment qu'il y a des entreprises, des ateliers, des bureaux qui déménagent, le sentiment que c'est plus en plus dur pour les habitants des territoires périphériques. C'est ce qu'exprime le point de départ d'ailleurs du mouvement, et ce n'est pas hasard, c'était sur le sentiment que pour se déplacer, ça te coûte de plus en plus cher.
Vous sentez qu'il y a une attente de la population, il y a une méfiance de la population vis-à-vis des responsables politiques et du pouvoir central ?
J'ai envie de dire qu'il y a les deux, on l'a vu d'ailleurs. Il y a une défiance absolue vis-à-vis du pouvoir central, vis-à-vis des parlementaires, entre autres, mais du gouvernement surtout. Il y a une confiance par contre très forte vis-à-vis des élus locaux. Donc je pense qu'il faut entendre aussi la façon dont les élus locaux gèrent leur propre territoire. Je pense qu'en la matière, l'État serait bien inspiré s'il s'appuyait sur le bon sens que diffuse et qui habite la plupart des élus locaux.
Merci. Christophe Bouillon, député PS, je le rappelle, de Seine-Maritime, président délégué de l'Association des Petites Villes de France, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Merci à Stéphane Robert. On termine avec un mot rapide de météo. Cet après-midi, le temps sera encore généralement gris avec un régime d'averse qui traversera le pays du sud-ouest au nord-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.